À toutes et à tous. Ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous allons continuer l'étude du texte que j'avais commencé il y a 2 semaines, où nous avions parlé du fait que Dieu attendait des enfants l'obéissance, et il semblerait que les enfants aient à peu près bien retenu le contenu du message, puisqu'ils ont su le redire une fois ou l'autre, et c'est encourageant. Pour moi, en tant que pasteur et que prédicateur, lorsque les personnes n'oublient pas ce que nous leur disons. Si jamais vous êtes atteint comme Georges de ce syndrome qui fait qu'on tend à oublier les choses qu'on entend, bah je vous invite aussi à prendre des notes pendant le message, pendant qu'on écoute, parce que c'est un bon moyen de mémoriser et surtout c'est un bon moyen de pouvoir revenir à ce que nous avons entendu plus tard. Je vais lire avec vous les 4 premiers versets. De Éphésiens chapitre 6. Vous, enfants, obéissez à vos parents, à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. C'est sur ce 4e verset que je m'arrêterai plus précisément aujourd'hui. Alors bien qu'il s'adresse au père en premier lieu, et c'est aussi contextuel par rapport aux Éphésiens de l'époque, eh bien les mères sont tout autant invitées à écouter et à recevoir aussi les conseils qui seront faits pour les pères. Ce qu'on n'imaginerait guère Paul dire aux pères de ne pas exaspérer leurs enfants, mais permettre aux mères de le faire. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Aujourd'hui, nous allons considérer 2 commandements de l'apôtre Paul pour nous aider dans l'éducation de nos enfants. Et il va dire tout premièrement que Dieu demande aux pères de ne pas exaspérer ou irriter leurs enfants, mais aussi que Dieu, on va voir aussi que Dieu demande aux pères d'élever leurs enfants en les éduquant et en les conseillant. Alors bien entendu, aujourd'hui, je ne vous promets pas que je vais couvrir tout ce que la Bible dit sur l'éducation, il y a bien plus que cela, mais nous voulons bien commencer quelque part. Et je pense que ce texte-là a bien des choses à nous dire dans le domaine de l'éducation de nos enfants. Paul commence avec une demande bien particulière, avec un commandement bien particulier qui est de ne pas exaspérer ses enfants. Alors on se dirait, nous les parents, nous sommes les parents, nous avons autorité sur nos enfants, et si ça les exaspère, eh bien tant pis pour eux. Eh bien Paul dit quelque chose d'un peu différent. Il y a 2 semaines, on a vu que les enfants avaient des devoirs envers leurs parents, notamment l'honneur et l'obéissance. Et on pourrait penser du coup que les parents, ils n'ont que des droits, qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, que finalement les parents n'ont pas de devoirs. Les enfants sont plus jeunes que les parents, ils sont soumis aux enfants, du coup ils font ce que les parents disent et les parents font du coup ce qu'ils veulent. Eh bien ici, Paul nous dit que ça n'est pas comme cela que Dieu voit les choses. Paul va rappeler aux pères tout particulièrement qu'ils ne doivent pas exaspérer ou irriter leurs enfants. Et croyez-moi que dans la société de l'époque, eh bien c'était quelque chose qui était loin d'être banal. Les hommes ici sont interpellés par Paul quant à leur position vis-à-vis de leurs enfants. Paul ici met en avant la responsabilité que le père a dans l'éducation de ses enfants, dans la relation avec ses enfants. En tant que parent, de manière générale, mais en tant que père, de manière particulière, nos enfants sont sous notre responsabilité. Leur éducation, c'est notre responsabilité, c'est notre travail. Je disais il y a 2 semaines que, entre guillemets, le travail des enfants dans la maison, c'était d'être obéissant et d'honorer leurs parents. Eh bien, nous aussi, en tant que parents et en tant que pères, tout particulièrement, nous avons un travail, c'est celui de nous occuper, d'éduquer nos enfants. Dans la société de l'époque, lorsque Paul va écrire cette lettre aux Éphésiens, le père a beaucoup de droits. Il a d'une certaine manière tous les pouvoirs sur ses enfants. Il a même le droit de faire mettre à mort son fils. Même quand le fils est adulte. Le père a tous les droits. Il a tous les pouvoirs sur ses enfants. Et il a peu, finalement, de devoirs vis-à-vis de ses enfants. Et s'il en a, eh bien, il ne considère pas forcément que ce soit sa première responsabilité. Mais l'évangile transforme cette société dans laquelle les Éphésiens se trouvent, et elle continue de transformer notre société et notre personne. L'évangile change la donne, l'évangile transforme les relations familiales. Le père a toujours des droits. Les enfants doivent toujours obéir et honorer leurs parents. Paul vient de le dire juste avant. Il l'a écrit juste avant. Mais en même temps, le père et les parents, d'une manière générale, doivent prendre conscience de leurs devoirs et vivre conformément à ce que Dieu demande pour répondre à ces devoirs. Et Paul s'adresse premièrement au père. Et je souhaite vraiment que ce matin, nous tous qui sommes pères, nous puissions ouvrir bien grand nos oreilles. Que nous puissions recevoir ce que Dieu a écrit pour les pères. Il aurait pu dire père et mère, il aurait pu dire vous parents, il a dit vous les pères. Parce que dans la société de l'époque, il y avait quelque chose qui n'était pas raisonnable, qui n'était pas bon entre les pères et les enfants, et Paul souhaite que l'évangile redresse ces choses-là pour que la relation familiale soit vécue correctement. Paul remet les pères à leur place. Pas celle d'un père autoritaire qui décide et qui commande tout, mais celle d'un père qui aime, qui veille, qui éduque, qui conseille, un père qui est bienveillant, qui veut le bien de ses enfants. À l'époque, les pères voulaient pas, je dis pas qu'ils ne voulaient pas le bien de leurs enfants, mais une de leurs premières préoccupations, c'était quand même d'être obéi, d'être le père autoritaire à qui on ne dit pas non et d'être un père dont les enfants font ce qu'on leur dit de faire. Mais Paul attire l'attention du père vers ses devoirs. Pas spécialement vers ses droits. Oui, le père a le droit d'être honoré et il a le droit qu'on lui obéisse. Mais il s'est déjà occupé de cette partie-là, Paul. Et vous vous êtes rendu compte qu'il n'a pas dit père, parents, mère, faites que vos enfants vous obéissent. Il s'est adressé aux enfants, il a dit aux enfants d'obéir et maintenant il dit aux pères ce qu'eux aussi doivent faire. Les enfants savent ce qu'ils ont à faire et ils doivent le faire. Les pères et les parents, de manière générale, maintenant, reçoivent aussi pour eux leurs instructions et ils doivent eux aussi faire ces choses-là. Parce que s'ils ne font pas ça, eux aussi, ils désobéissent à Dieu. Tout comme on avait dit la dernière fois que si les enfants n'obéissent pas à leurs parents, ils désobéissent à Dieu. Eh bien, si les pères, notamment, et les parents de manière générale, ne font pas ce que Paul demande ici, eh bien, eux aussi désobéissent à Dieu. Un jour, nous devrons rendre compte à Dieu de la façon dont on aura tenu ou non notre rôle de père et de parent de manière plus générale. Et ça doit aussi, je dirais, nous encourager, nous motiver, nous donner envie de bien vivre ces choses-là, parce qu'un jour, eh bien, le Seigneur nous demandera compte aussi de ces choses-là. Alors nous ne devons pas exercer, je dirais, notre rôle de père dans la crainte, dans la peur du Seigneur ou du jour où nous nous trouverons devant lui, mais nous ne devons pas oublier que, eh bien, un jour, nous passerons devant le Seigneur et que ces choses-là seront aussi examinées. Ainsi, les pères sont appelés à ne pas irriter ou à exaspérer leurs enfants. Ça dépend des traductions. Et je sais que c'était un de mes versets préférés quand j'étais petit, parce que souvent mon père me disait « Il faut que tu m'écoutes !» Et je lui disais « Je t'écoute si t'arrêtes de m'exaspérer. » Ouais, on rigolait, hein, ça allait. C'était pas une vraie discussion sérieuse, il n'y avait pas une vraie tension entre nous à ce moment-là. Je respecte mes parents et je ne me serais pas permis de leur parler comme ça. L'exercice de l'autorité des pères, c'était sans doute quelque chose de très contraignant. Et le père s'appliquait sans doute à amener l'éducation aux enfants, mais sans trop se préoccuper des besoins ou des attentes, ou je dirais des, entre guillemets, des spécificités de ses enfants. Et vous savez, on ne peut pas toujours administrer l'éducation de la même manière. Et quand on est enfant, c'est un truc extrêmement frustrant. Ma petite sœur n'a pas été élevée comme ma grande sœur et moi. Et je disais toujours à ma mère, alors moi j'aurais fait ça, j'aurais fait un dixième, un centième de ce truc. J'aurais été puni, mais alors, mais d'une manière. Et ma mère, un jour, m'a dit, tu sais, je sais qu'on ne vous a pas élevé exactement pareil, mais c'est parce que vous étiez différent. Et elle a dit, par contre, on a toujours visé le même but. Le but, à la fin, c'était toujours de vous inculquer la même chose, mais on ne pouvait pas le faire de la même manière parce que vous étiez différent, parce que vous aviez des caractères différents, des réactions différentes. Et c'est vrai. Et il est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, on est appelé à faire attention à nos enfants, à qui ils sont. Pas simplement dire ben, les choses c'est comme ça et tu fais comme ça et puis c'est tout. Paul y demande aux pères d'exercer leur autorité d'une façon qui est différente de la façon du monde, sans aller jusqu'à irriter ou à exaspérer les enfants. Et sans doute que dans la société non chrétienne d'Éphèse, eh bien, les pères étaient souvent irritants ou exaspérants parce qu'ils ne tenaient pas franchement compte de leurs enfants ou parce qu'ils voulaient simplement que les enfants fassent ce qu'ils disaient parce qu'ils étaient de père. Et pour élever nos enfants sans les exaspérer ou les irriter, eh bien, nous avons besoin d'humilité et de sagesse. Ça n'est pas facile, Et vous le savez sans doute bien mieux que moi, parce que moi, je ne suis qu'au début de ma tâche d'éducateur avec Zoé. Alors vous savez sans doute bien mieux que moi que ça n'est pas toujours simple d'être humble et sage dans l'éducation de nos enfants. Mais un mauvais exercice de l'autorité, ça donnerait une mauvaise image de l'Évangile et de ses effets. Bien éduquer nos enfants avec de l'amour, avec de la douceur, de la tendresse, de la patience, de la sagesse, mais aussi de la fermeté, eh bien c'est un bon témoignage en faveur de l'Évangile. Laisser nos enfants faire ce qu'ils veulent, ça n'est pas un bon témoignage de l'Évangile. Leur expliquer qu'il y a des règles, qu'il y a des limites, qu'il y a des codes, qu'il y a des manières de faire et de ne pas faire, c'est bon pour eux. Parce que ça leur apprendra aussi quelque chose de la manière dont ils seront appelés à vivre leur relation avec Dieu. Et aussi, ça leur apprendra quelque chose pour toutes les relations à l'extérieur de l'Église. À l'école, dans leur travail, dans leur relation avec leurs amis, avec leurs supérieurs, avec leurs subordonnés. Ce que nous apprenons à nos enfants dans la maison, ça leur servira pour toute leur vie. Pour tout ce qui dépasse simplement la maison ou la question de la relation avec Dieu. Comment est-ce qu'on pourrait donner à nos enfants envie de connaître le Seigneur si notre éducation et nos réactions à leur égard, elles discréditent Dieu et son œuvre? Si les enfants sont chrétiens, on pourrait risquer d'entraver leur marche avec le Seigneur. Et je pense que peut-être parfois on est décourageant avec les enfants. Parce qu'on met la barre tellement haut, on leur demande des choses tellement inaccessibles qu'ils essayent, ils n'y arrivent pas, ils se découragent et en plus nous les décourageons aussi. Et parfois nous leur demandons même d'accomplir des choses que nous-mêmes nous n'arrivons pas à accomplir. Parce que nous savons quel est l'idéal que nous aimerions qu'ils atteignent, mais nous-mêmes nous n'y sommes pas encore arrivés. Et nous mettons parfois une pression extraordinaire sur nos enfants, ou même des fois sur nos neveux, nos nièces ou autres, parce qu'on aimerait qu'ils soient déjà parfaits maintenant, tout de suite. Comme ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Et du coup, une éducation qui serait trop dure, trop sévère, trop stricte, et je mets l'emphase sur le trop, eh bien, elle pourrait finalement décourager nos enfants. Et se dire, mais alors si c'est ça, de marcher avec Dieu, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est vraiment bon? Nous devons nous rappeler que nos enfants, s'ils sont chrétiens, ils sont dans une marche quotidienne avec le Seigneur. Ils sont appelés à grandir petit à petit comme nous. Il nous faut faire preuve de patience, de douceur, de sagesse, de discernement, d'encouragement avec eux, pour qu'ils puissent s'attacher toujours plus au Seigneur. Bien entendu, nous avons... je dirais, des objectifs dans l'éducation. Nous avons des choses auxquelles nous avons envie que nos enfants arrivent. Mais nous souhaiterions parfois qu'ils y arrivent tout de suite, immédiatement. Alors que c'est un processus plus long de maturation, de maturité, de transformation. L'apôtre Paul dit qu'il faut se dévêtir de l'homme ancien et revêtir l'homme nouveau. Ça prend du temps de faire ces choses-là. Et nous sommes appelés dans notre éducation à avoir de la bienveillance pour nos enfants. On doit leur montrer par notre éducation les effets qui sont plus que positifs de l'Évangile dans notre vie à nous. Il faut que notre vie devienne un témoignage vivant de la grâce de Dieu et que cela donne envie à nos enfants de s'attacher toujours plus à Dieu. Et j'aimerais dire cela aussi qui me semble important. Si nos enfants appartiennent au Seigneur, ils ne sont pas seulement nos enfants. Ils sont aussi et d'abord nos frères et nos sœurs, en Christ. Vous vous souvenez sans doute de ces fois où Paul écrit aux Romains, aux Corinthiens, en disant « Mais si vous faites chuter un frère, vous faites chuter quelqu'un pour qui Christ est mort. » Et je crois que Paul aurait pu nous dire, alors il ne nous l'a pas dit parce que ce n'est pas ce que le Seigneur a voulu nous transmettre, mais il aurait pu dire « Mais si vous exaspérez ou que vous irritez vos enfants, s'ils sont chrétiens, vous irritez, vous faites du mal à quelqu'un pour qui Christ est mort. » Et on ne doit jamais oublier qu'on est sur un même plan vis-à-vis du Seigneur que nos enfants quand ils sont chrétiens. Je crois qu'on ne doit pas oublier ça. Si nos enfants sont chrétiens, ils sont nos frères et ils sont nos sœurs. Je sais que c'est bizarre. Dans l'idée, on dit « c'est nos enfants, mais en même temps c'est nos frères, c'est nos sœurs, mon père c'est mon frère, etc. Ma mère c'est ma sœur. » Des fois ça s'embrouille un peu dans nos têtes. Mais on ne doit pas oublier ça. On ne doit pas oublier cette chose-là. Christ est mort pour nos enfants si nos enfants sont chrétiens, et du coup, nous devons prendre ça en compte dans l'éducation que nous leur donnons. n'entravons pas, ne décourageons pas nos enfants dans leur marche avec le Seigneur, par notre éducation. Alors bien entendu, je ferai des erreurs. J'exaspérerai Zoé. Je l'embêterai. Je l'agacerai. Peut-être un jour, elle en aura marre de venir tous les dimanches au culte. Du coup, quand je dis ces choses-là, c'est pas pour vous jeter la pierre hein, et dire « vous êtes vraiment des mauvais parents hein. ». Pas du tout. Parce que je me permettrai jamais de dire ça. Mais simplement que nous puissions demander au Seigneur toute la sagesse nécessaire pour ne pas décourager nos enfants. Savoir comment faire pour bien s'occuper d'eux, pour les amener à vraiment connaître le Seigneur. Et si nos enfants ne sont pas chrétiens aujourd'hui, eh bien une éducation, je dirais, trop rigide, trop stricte de notre part, une éducation qui ne serait pas comme le Seigneur la souhaite, eh bien finalement elle risquerait d'irriter nos enfants, effectivement. Elle risquerait de les dégoûter éventuellement de la foi chrétienne, parce qu'ils n'en verraient pas les effets chez nous. Alors c'est pas parce qu'aujourd'hui peut-être vos enfants ne suivent pas le Seigneur que ça veut dire que vous avez été de mauvais éducateurs. Ça n'est pas ça non plus. C'est pas tout noir ou tout blanc. Les enfants ont la responsabilité de suivre le Seigneur. C'est leur tâche à eux de se donner au Seigneur. Mais que nous ayons une vie qui reflète les effets de l'Évangile, de l'amour de Dieu, et que ça se voit dans notre éducation. Je connais quelques familles chrétiennes, quelques enfants de familles chrétiennes en tout cas, où l'éducation était si dure, si rigide, si stricte, qu'ils n'ont plus jamais voulu entendre parler de l'Évangile après. Ils ont dit « moi je me sens plus heureux sans Dieu que si je dois être avec Dieu et être comme mes parents ». Nous cherchons à bien faire, mais parfois, eh bien, nous cherchons tellement à faire par nos propres forces que nous passons à côté. Mais Dieu peut nous pardonner aussi pour ces choses-là. Et Dieu peut ramener aussi ces enfants-là. Ce que nous, nous n'avons peut-être pas réussi par notre éducation, Dieu le peut. Parce que lui est infaillible. On est appelé à être la lumière du monde auprès de nos enfants aussi. On veut bien être lumière du monde auprès de nos amis, auprès de nos collègues, etc. Les premières personnes auprès de qui on est appelé à être lumière du monde, ce sont nos enfants, parce que nos enfants sont dans le monde, même si ils grandissent et qu'ils vivent dans une famille chrétienne. Mais si nous donnons une vision négative de la foi à nos enfants, pourquoi est-ce qu'ils voudraient devenir chrétiens ? Pourquoi est-ce qu'ils voudraient connaître le Seigneur ? Pourquoi est-ce qu'ils voudraient marcher à sa suite si nous les en dégoûtons par notre attitude ? Et j'aimerais rappeler aussi que nous ne devons pas oublier que nos enfants, par défaut, ne sont pas chrétiens. Et notre façon de les éduquer, elle doit prendre ça en compte. Même si nos enfants naissent dans une famille chrétienne, ils ne sont pas chrétiens. Même si nos enfants prient avec nous, même s'ils écoutent la parole, même si nous chantons avec eux, même si des fois ils prient, même s'ils reconnaissent des choses du Seigneur, tant qu'ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas chrétiens. Et nous ne devrions pas attendre d'eux qu'ils se comportent comme des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Parce que vous le savez très bien, aussi bien que moi, parce que vous êtes passé par là, c'est lorsque Dieu nous transforme qu'on est capable de vivre en conformité avec ce qu'il veut. On ne doit pas oublier, si nos enfants ne sont pas convertis, qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils le connaissent peut-être d'une manière théorique. Et il y a des gens qui connaissent Dieu d'une manière théorique extraordinaire. Frédéric Lenoir, c'est un auteur, un monsieur qui écrit beaucoup de livres sur la chrétienté, sur la religion. Eh bien, il a une connaissance biblique extraordinaire, mais il ne comprend rien. Il passe à côté du message de l'Évangile parce qu'il n'est pas renouvelé. C'est la même chose pour nos enfants. Tant qu'ils ne sont pas renouvelés, ils ne peuvent pas vivre en tant que chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir laxiste et dire à chaque fois bah, « ils ne sont pas chrétiens en même temps ». Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Ils ne sont pas chrétiens de toute façon. Proverbe 22, verset 6, nous dit d'enseigner l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Parce que comme ça, quand il sera grand, quand il sera plus âgé, il ne se détournera pas de ces voies-là. Ce proverbe, il ne parle pas exclusivement ou spécialement seulement des questions spirituelles. Ce proverbe, il parle de toute l'éducation qu'on donne à nos enfants. Les choses spirituelles, mais aussi les choses pratiques, les choses de bon sens, la sagesse, etc. Toutes ces choses-là sont contenues dans ce proverbe. Du coup, le Seigneur dit bien, la manière dont on va éduquer nos enfants, eh bien, ça va jouer sur la manière dont ils vont vivre plus tard. Et du coup, même si nos enfants ne sont pas chrétiens, on est appelé à les éduquer avec des valeurs et avec certaines choses. Les enfants, ils doivent l'honneur, l'obéissance, la soumission et le respect à leurs parents et à Dieu, mais ce n'est pas ça qui fait d'eux des chrétiens. Notre éducation, elle doit allier notre foi et notre désir de les voir se convertir avec le fait qu'aujourd'hui, peut-être, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et que du coup, eh bien, il y a certains changements qui ne pourront exister que lorsqu'ils connaîtront le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut être découragé et se dire « bon, ben, je lâche l'affaire alors, puisque tant qu'ils ne sont pas chrétiens, ça ne marchera pas ». Le contraire, c'est de dire « Seigneur, ça, je ne peux pas le faire, mais toi, tu peux le faire ». Du coup, moi, je fais tout ce que je peux, et c'est déjà beaucoup, hein, ce qu'on fait en tant que parent, même avec un seul enfant. Je fais tout ce que je peux, et tout ce que je ne peux pas faire, je le laisse entre tes mains. Je fais tout, mais je n'oublie pas non plus qui est mon enfant. Je lui enseigne tout ce que je pense être juste, être bon, être vrai, être sage, être digne d'attention, mais je n'oublie pas que mon enfant ne t'appartient pas encore et qu'il y a des choses qu'il ne peut pas créer lui-même. Et qu'il n'y a que ton esprit qui peut les mettre en eux. Il y a des choses qui peuvent se faire que par la sanctification qui découlera de la conversion de nos enfants. Et du coup, il doit y avoir aussi une cohérence entre ce que nos enfants sont spirituellement et humainement et ce qu'on attend d'eux. Des fois, on attend de nos enfants qu'ils fassent tout ce qu'on leur dit, qu'ils fassent tout comme nous. Eh bien, Dieu a dit lui-même qu'il ne voulait pas des œuvres pratiques. Il ne voulait pas spécialement des sacrifices, des holocaustes, des choses comme ça. Il voulait un cœur qui lui soit consacré. Et je crois qu'on a besoin de s'en rappeler aussi quand on éduque nos enfants. Dieu ne souhaite pas spécialement que nos enfants fassent des copier-coller de toutes nos actions. Ce que Dieu veut, c'est que nos enfants le connaissent personnellement. Ah, bien sûr, s'ils obéissent, c'est très bien. Et Dieu veut que les enfants obéissent. Mais nous devons faire très attention parce que je crois que des fois, nous laissons penser à nos enfants que être chrétien, c'est faire toutes ces choses-là. Alors que la Bible nous dit « être chrétien, c'est pas faire ». C'est être. Et c'est parce que je suis que je viens à faire des choses. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on n'oublie pas où en sont nos enfants par rapport à ce qu'ils vivent avec Dieu. Et qu'il faut faire attention qu'ils comprennent bien qu'on fait ces choses-là parce qu'on croit au Seigneur, parce qu'on l'aime, parce qu'on veut lui obéir. Mais ce n'est pas parce que je fais ces choses-là que je suis chrétien. Ce n'est pas parce que je fais ces choses-là que je suis sauvé. Je les fais en conséquence de quelque chose d'autre. Mais ces choses-là ne sont pas la cause de quelque chose. Ce n'est pas parce que je vais faire ça que je vais être sauvé, que Dieu va m'aimer plus. Je le fais justement parce que j'ai vu tout l'amour de Dieu pour moi. Du coup, Paul explique ici aux pères ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils ne doivent pas exercer leur autorité, qui était certes légitime, d'une façon qui les découragerait et qui provoquerait un fort sentiment de rejet et d'opposition chez les enfants. Il ne doit pas abuser de son autorité ou l'exercer sans prendre en compte l'enfant face à lui. Et je me rappelle un jour où j'ai été confronté avec mon père et j'étais jeune, hein, j'étais petit encore, et je ne comprenais pas la réaction de mon père. J'avais fait une blague que j'estimais être de bonne facture, que j'estime d'ailleurs toujours être de bonne facture. Après, vous me connaissez, je ne suis pas très difficile. Où je demandais à mon père, « Papa, qu'est-ce que c'était le nom de famille de Judas ?» Alors déjà, j'ai senti que parlant de celui qui avait trahi Jésus, j'avais mis un pied dans le plat. Et mon père me dit, ben, je ne sais pas, on n'en sait rien de son nom de famille. Et je lui dis, mais si, on sait. Et mon père me dit, ah bon, mais là, c'est quoi alors, puisque tu sais? Ben, je lui dis, il s'appelait Nanas. Judas Nanas. J'avais 6 ou 7 ans, moi je trouvais ça hilarant. Et je trouve d'ailleurs toujours ça pas mal drôle. Et mon père m'a disputé comme si j'avais blasphémé contre le Seigneur. Et je me suis dit, mais on ne peut pas rire. Quand on est chrétien, on ne peut pas s'amuser. Et ça m'a vraiment, dans mon cœur, vraiment, ça m'a blessé. Et je ne comprenais pas pourquoi mon père avait réagi comme ça. Mon père a progressé et il a grandi. Et aujourd'hui, mon père n'est plus comme il était là. Mais vraiment, ça m'a bloqué. Et Paul dit, il faut faire attention dans notre éducation, dans nos réactions, dans la manière de dire les choses. Parce que peut-être, ça va provoquer de l'irritation, de l'exaspération chez nos enfants, et du coup, le message de l'évangile ne passera plus. Mais Paul ne va pas juste dire ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ça qui est bien avec l'apôtre Paul, c'est qu'en général, il dit il ne faut pas faire ça, et ensuite, il nous dit ce qu'il faut faire. C'est quand même mieux, parce qu'il pourrait nous dire toujours ce qu'il ne faut pas faire, mais on ne saurait jamais quoi faire. Mais là, Paul le dit. Et du coup, Paul, ici, va demander, de la part de Dieu, il va transmettre de la part de Dieu aux pères d'élever leurs enfants en les éduquant et en les conseillant. Nous sommes appelés à éduquer, à corriger nos enfants. Alors quand on parle de correction, on a souvent un peu l'idée de la correction physique, corporelle, la punition. Mais ici, ce n'est pas comme ça que l'Écriture utilise le sens de corriger. Ici, c'est corriger dans le sens de redresser ce qui est tordu. Quand vous êtes à l'école, vous faites un devoir, on vous corrige. On vous dit, ça, ce n'est pas juste, c'est ça qui est juste. C'est ça qu'il faut que tu sois capable de faire la prochaine fois. Eh bien, l'idée de l'éducation, c'est la même chose. On élève nos enfants d'une manière à redresser ce qui est tordu en eux, dans une certaine mesure, parce qu'il y a des choses que Dieu seul peut redresser. Mais l'idée de ce que Paul veut, c'est de dire aux pères, maintenant, vous allez prendre du temps avec vos enfants. Pas pour leur asséner tout ce qu'ils doivent faire, mais pour leur dire, ça, ça ne va pas, voilà ce que tu dois faire. Ça, ça ne va pas, voilà comment tu es appelé à réagir. Voilà, ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas correct. Voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que Dieu aussi attend de toi. L'éducation, elle n'exclut pas la punition. Des fois, la punition, elle est nécessaire. Mais Paul, il veut ici diriger les pères vers une éducation qui soit positive, bienveillante. Pas l'éducation positive bizarre du monde extérieur qui dit qu'il faut laisser les enfants tout faire, qu'il ne faut pas les punir. Que... Non, ça, c'est des bêtises. Mais vers une éducation qui soit positive, qui soit portée vers le bien des enfants. En opposition, finalement, à cette éducation extrêmement rigide qui était, à l'époque, répandue à Éphèse. Paul leur dit, il ne faut pas que vous soyez, que vous continuiez à être rigide, à être voilà, très autoritaire, comme ça, mais que vous enseigniez vos enfants pour qu'ils comprennent ce qui ne va pas et qu'ils puissent revenir dans le bon chemin, faire les bonnes choses. C'est extrêmement positif ce que Paul y demande, c'est génial. En vrai, être parent, c'est extraordinaire. Alors peut-être que si Zoé crie plein de fois aujourd'hui dans la journée, je changerai peut-être un peu d'avis des fois en cours de route, mais être père, c'est extraordinaire. Être parent, c'est extraordinaire parce qu'on peut aider nos enfants à marcher dans ce qui est bon, dans ce qui est droit, dans ce qui est juste. On peut les amener à se diriger, à connaître le Seigneur. Alors oui, des fois, on mitige le bien que c'est d'être parent, hein, parce que des fois, les enfants ne sont pas obéissants, ils veulent faire que ce qu'ils veulent, etc. Vous savez ça sans doute aussi mieux que moi si vous avez déjà des enfants. Mais l'éducation qu'on est amené à apporter à nos enfants, elle est extrêmement bonne. La Bible, elle ne montre jamais l'éducation comme quelque chose de mauvais, de pénible, d'agaçant, de lourd. La Bible montre l'éducation comme quelque chose de bon parce que ça va conduire celui qui la reçoit à quelque chose de meilleur. On est appelé à dire à nos enfants ce qui ne va pas, tout en les dirigeant vers ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui plaît à Dieu, par rapport à leur position d'enfant. Et parfois, c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de faire preuve d'autorité. Je me rappelle que avec ma petite sœur, des fois, je disais à ma mère, mais pourquoi tu dis rien? Et elle me disait, je suis fatiguée. Elle disait, je suis fatiguée physiquement parce qu'elle était malade. Et elle disait aussi, je suis fatiguée parce que ça fait des années et des années que je vous élève. Et là, ça devient difficile. Alors c'est vrai, des fois, c'est dur de faire preuve d'autorité. L'éducation, la correction, ça demande de l'investissement, ça demande des convictions, ça demande un travail quotidien, ça demande de l'énergie. Mais le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 13, nous encourage à corriger notre enfant en mettant en avant que c'est bon pour notre enfant. Quand nous reprenons nos enfants, nous faisons quelque chose de bien pour eux. Nos enfants sont imparfaits, ils sont pécheurs, et même s'ils sont chrétiens, leur sanctification, elle n'est pas encore achevée. Il y a encore des choses qui doivent être transformées en eux. Et du coup, on doit trouver, en demandant à Dieu, l'équilibre entre l'amour et l'autorité. Proverbe 13, verset 24, nous dit que celui qui ne corrige pas ses enfants, il ne les aime pas. Le laxisme, ce n'est pas de l'amour, c'est de la facilité. Et après, quand ça ne va pas, on s'étonne. « Ah, mais je comprends pas, on lui a jamais mis de limite. » Je pense que la réponse est dans la question. Si on ne met pas de limite, ça ne peut pas aller. Nos enfants ont besoin de savoir jusqu'à où ils peuvent aller. Ils ont besoin de savoir qu'on veille sur eux, qu'on ne les empêchera pas d'aller là où ce n'est pas bon pour eux d'aller. Et ce proverbe encore, 13-24, nous dit que « Celui qui aime, il corrige rapidement. » Quand on aime, on ne laisse pas notre enfant s'enfoncer, refaire les mêmes bêtises, etc. Et puis après, on se dit, bon, ça fait 15 fois qu'il fait, peut-être que je devrais lui dire quelque chose. Quand on aime, on est appelé à corriger rapidement, à ne pas attendre pour corriger nos enfants, pour les diriger vers ce qui est bon, ce qui est droit, ce qui est juste. Ne laissons pas traîner les choses en matière d'éducation. Si Zoé fait une bêtise, que je lui dis rien, qu'elle la refait encore une fois, qu'elle l'a fait une troisième fois, qu'elle l'a fait une quatrième fois, une cinquième fois, c'est pas sa faute. C'est ma faute. C'est ma responsabilité. Si elle ne sait pas que c'est pas bien et que je ne lui dis rien, je suis responsable du fait qu'elle fait des bêtises. Une fois que je lui ai expliqué, que je lui ai enseigné, que je lui ai dit, elle est responsable de sa bêtise. Mais moi, en tant que père, je dois l'empêcher, je dois lui expliquer, je dois lui dire, je dois lui enseigner que c'est pas bien, pour qu'elle sache que c'est pas bien. Si elle ne sait pas que c'est pas bien, elle peut pas deviner par elle-même. Elle, quand elle prend les DVD et qu'elle les envoie valser dans le salon, elle sait pas que c'est pas bien. Faut que je lui dise. Elle, elle trouve ça rigolo. Nous, moins. Mais oui, on a besoin de faire ces choses-là rapidement, de nous occuper rapidement de l'éducation de nos enfants, de ne pas laisser traîner les choses qui ne vont pas. Proverbe 29, verset 15 nous dit que la punition, ça amène la sagesse. Si je corrige mon enfant, si je lui enseigne ce qui est bon, ça le conduira vers la sagesse. Je vous le dis, hein, la Bible montre vraiment l'éducation, la correction comme quelque chose d'extrêmement bon. Des fois, on a un peu ce biais de dire « Moi, je veux pas trop corriger. Moi, je veux montrer de l'amour. » Si tu veux montrer de l'amour, il faut corriger. Parce que si on ne corrige pas les erreurs, qu'elles soient familiales dans un cercle restreint ou qu'elles soient d'église, qui est notre famille aussi, si on ne corrige pas les erreurs, les errements, on n'a pas d'amour. L'amour, c'est de dire « Attention à ce que tu fais, attention où tu vas. » C'est par là qu'il faut que tu ailles. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Et ça fera grandir dans la sagesse. Ainsi, quand le découragement nous touche, eh bien, continuons, malgré tout, de corriger nos enfants, de les redresser avec l'aide du Seigneur. Demandons à Dieu de renouveler nos forces, notre espoir, notre espérance. N'ayons pas honte de dire au Seigneur notre état, nos joies et nos peines en matière d'éducation. De toute façon, Dieu voit ces choses-là, et il veut nous secourir dans ce domaine aussi. Et c'est pas un échec. Si des fois l'éducation c'est difficile, l'échec c'est de rien faire. L'échec c'est de laisser notre enfant comme ça dans son péché. Ça c'est l'échec. On devrait avoir beaucoup plus honte de rien faire que de faire des choses qui portent pas tout de suite du fruit. On est appelé à punir les erreurs, à corriger les choses qui ne vont pas, en expliquant ce qui allait pas et en expliquant comment agir maintenant. Les pères d'Éphèse, ils avaient sans doute ce biais de punir durement les fautes sans expliquer pourquoi c'était pas bien. Parce qu'ils voulaient juste être obéis. Et est-ce que parfois on n'est pas aussi un peu comme ça? On veut juste que nos enfants obéissent. On est les parents, ça suffit maintenant, fais ce que je te dis. Il y a des fois, on est obligé d'imposer des choses. Moi, des fois, mes parents, ils ont dit, tu fais ce que je te dis, parce que je te le dis. Ah ouais, mais tu fais ce que je te dis, parce que je te le dis. Et tu arrêtes de discuter. Ben, je suis là, hein, je ne suis pas mort, je vais bien, je suis un homme plutôt joyeux et heureux. Donc, on peut avoir une éducation avec une certaine sévérité et en vivre très bien. Mais prions pour que Dieu nous transforme, pour que notre éducation elle soit une bénédiction pour nos enfants. Et Paul va dire plus précisément qu'est-ce qu'il attend. Et il va dire notamment qu'on est appelé à conseiller nos enfants. Paul, il veut que notre expérience, elle serve à nos enfants. Ce qu'on a vécu nous-mêmes avec le Seigneur, ce qu'on a vécu nous-mêmes quand on n'était pas chrétien aussi, le Seigneur veut que ça serve à nos enfants. Ne fais pas ça parce que quand j'avais ton âge, j'ai fait la même chose. Voilà ce que ça m'a amené. On est appelé à les conseiller, mais en même temps, quand on conseille, eh ben, on est aussi appelé à être prêt à ce que des fois nos enfants n'écoutent pas nos conseils. On aimerait toujours être écouté, forcément. Mais parfois, nous conseillons les personnes et les personnes font autre chose que ce que nous leur conseillons, même nos enfants. Mais nous devons quand même les conseiller, quand même leur dire la vérité, quand même leur dire ce qui est bon. Ce qu'ils en font, c'est leur responsabilité. Nous, nous devons leur dire et ensuite, eux l'appliqueront ou non. Mais ils sont responsables d'appliquer ou de ne pas appliquer. Et même quand on a mon âge, on peut et on doit toujours être prêt à entendre et à écouter des conseils. Même vous qui êtes plus âgés que moi, si vous avez encore vos parents, ils peuvent encore être de bons conseils pour vous. l'éducation que Paul présente ici, elle n'a rien à voir avec l'éducation que les pères d'Éphèse, ils avaient l'habitude de donner. Elle est diamétralement opposée à tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. On est appelé à ouvrir le dialogue avec nos enfants. Et moi, je vous encourage à ouvrir un dialogue, à expliquer, à parler, à discuter, et aussi à écouter vos enfants. La chose qui me frustrait le plus quand j'étais plus jeune, c'était quand mes parents ne me donnaient pas la possibilité de parler, de m'expliquer. Alors, je n'étais pas tout à fait au point de ce qu'on a vu avec l'extrait de Malcolm, mais parfois j'avais envie de m'exprimer, de dire des choses, de poser des questions. Et je ne pouvais pas. Alors, je ne vous jette pas la pierre à mes parents, je les aime. Hein. Mais des fois, j'étais frustré parce que je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas dire. Donnez la possibilité à vos enfants de parler, d'exprimer, de dire, d'expliquer, même si c'est pour être totalement en désaccord avec vous. Mais pourquoi est-ce qu'ils devraient... Alors, bon, y a des raisons, hein. C'est une question rhétorique. Pourquoi est-ce qu'ils devraient vous écouter si vous n'avez pas envie vous-même de les écouter ? Ah, je te parle, écoute-moi. Bah oui, mais moi aussi, je te parle. Écoute-moi aussi. Bien sûr, ça se modère. On est d'accord, hein. Mais c'est simplement de dire que si on veut que nos enfants soient ouverts à la discussion, au dialogue et qu'ils s'attachent à ce qu'on leur dit, il faut aussi qu'on soit prêt à les écouter. Et des fois, ils ont peut-être des choses tout à fait légitimes à dire et à exprimer. Et après, plus tard, on en reparle 5, 10 ans plus tard et on dit « Mais pourquoi tu m'as jamais dit ça ?» J'aurais bien voulu dire, mais j'ai pas pu dire parce que tu m'as pas laissé parler. Nos conseils ils doivent viser à montrer le positif qui peut advenir des décisions de nos enfants. Dieu, il veut les bénir et il veut les accompagner dans les décisions difficiles. Et nous devons faire de même. Nous devons nous aussi les bénir et les accompagner dans leur prise de décision. On doit les aider à appliquer la parole à leur situation et à leur personne. Ça, c'est une tâche difficile. C'est la tâche du pasteur, de vous aider à savoir comment appliquer la parole à vos situations. Mais c'est une tâche extraordinaire, parce que lorsque l'on applique la parole à notre vie, à notre situation, il en découle des choses extraordinaires. Et nous ne devons pas perdre de vue l'objectif de l'éducation pour nos enfants. Par notre éducation, nous leur inculquons la sagesse de Dieu pour qu'ils ne s'en détournent pas. Par notre expérience, on peut les mettre en garde, les aiguiller, les encourager, les réconforter. J'aurais des choses à raconter à Zoé sur mon enfance et sur mon adolescence. Et j'espère qu'elle saura entendre ce que je lui dis. Pour ne pas faire les mêmes choix mauvais que moi, et pour par contre faire les mêmes bons choix que moi. Et Paul dit, eh bien, vous devez les élever en les éduquant et en les conseillant d'une manière qui soit conforme à la volonté du Seigneur. Je n'éduque pas et je n'élève pas mes enfants comme je veux. L'éducation et les conseils ne doivent pas découler de notre bon vouloir. C'est conformément à ce que Dieu veut que nous devons agir. Et cette phrase, elle montre d'abord que l'éducation et les conseils, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce que si on est appelé à les faire selon la volonté du Seigneur, c'est bien que Dieu veut qu'on éduque et qu'on conseille nos enfants. Ça montre aussi eh bien qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables devant Dieu en termes d'éducation. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables dans notre éducation. Dans l'éducation qu'on veut donner à nos enfants, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que ça n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Notre devoir de parent, c'est de chercher à comprendre comment Dieu veut que nos enfants soient élevés. Notre devoir de parent, c'est de savoir quelle est la sagesse à transmettre à mes enfants à tel moment. Pour élever nos enfants de façon conforme à la volonté de Dieu, eh bien, on doit bien connaître la parole de Dieu. Et on doit avoir nous-mêmes une relation vivante, sincère, profonde avec le Seigneur. Comment est-ce que je pourrais vouloir donner à quelqu'un des choses que je ne possède pas moi-même ? Et peut-être que parfois on rate aussi dans l'éducation parce qu'on ne transmet que des préceptes qu'on ne vit pas nous-mêmes. Et peut-être que si nous étions plus proches du Seigneur, que nous avions une relation plus profonde avec lui, eh bien, nos enfants verraient cela et ils auraient envie de vivre cela. Mais encore une fois, ce que je dis ici, ce n'est pas de dire « vous êtes tous des mauvais chrétiens, vous êtes tous des mauvais parents et c'est pour ça que ça foire avec vos enfants ». Ce n'est pas l'idée. Mais c'est l'idée de dire « plus on va être proche du Seigneur, mieux on pourra communiquer ces choses-là, plus nos enfants les verront et plus ils auront envie de vivre ça aussi ». Mais on a besoin d'entretenir cette relation avec Dieu pour pouvoir transmettre à nos enfants. pour inculquer la sagesse de Dieu à nos enfants, on doit la connaître et on doit la vivre. La connaissance, c'est une chose, hein, mais il faut vivre ce qu'on connaît. Job, Psaume, les Proverbes, l'Ecclésiaste, c'est des livres qui font partie du genre des livres de sagesse, qui nous apprennent la sagesse de Dieu. Même si vous ne levez pas votre main, ce n'est pas grave, c'est juste pour que vous ayez une idée de la proportion. Qui a lu un de ces livres dans l'année passée ? Eh bien, j'encourage tous ceux qui n'ont pas levé leur main aujourd'hui, et c'est pas, je ne vous jette pas la pierre encore une fois, à lire ces livres régulièrement. J'écoutais le témoignage d'un pasteur qui disait « Moi, je lis un livre biblique et en parallèle, je lis le livre des Proverbes. Et je relis le livre des Proverbes toute l'année, tout le temps, en parallèle encore aussi avec un autre livre. » Mais il disait « J'ai besoin de connaître la sagesse de Dieu, j'ai besoin qu'elle s'imprime en moi. » Et il disait « Je lis depuis des années, tous les ans, le livre des Proverbes et quand j'ai fini, je recommence. » Et il disait « J'apprends toujours des choses nouvelles. » C'est un défi que j'ai envie de me lancer, c'est une chose que j'ai envie de faire. Ces livres-là nous ont été donnés pour qu'on puisse grandir en sagesse et qu'on puisse transmettre cette sagesse à nos enfants. Alors bien sûr, ce n'est pas que ces livres-là. Hein. Toute la parole est nécessaire pour enseigner nos enfants. Mais ces livres-là, tout particulièrement, nous donnent un aspect peut-être un peu plus, je dirais, systématique de la sagesse. Ah ben si un tel fait telle chose, fait ceci en réponse, etc. Donc c'est un peu plus facile parfois de discerner les choses que quand on lit une histoire biblique et qu'on est appelé à prendre des fois un peu plus de recul pour comprendre l'histoire dans son ensemble, etc. Donc lisez vraiment ces livres. Job, Psaume, les Proverbes, l'Ecclésiaste, tous ces livres qui nous ont été donnés pour notre sagesse. Et si vous venez de vous marier ou que vous allez vous marier ou que vous êtes marié depuis longtemps, lisez le Cantique des Cantiques. C'est un livre de sagesse pour le coup. Ça peut faire sourire, mais c'est vrai. Ainsi, on est appelé à connaître, à vivre et à transmettre. N'attendons pas plus de nos enfants que ce que nous faisons nous-mêmes. La meilleure façon pour que nos enfants soient réceptifs à notre éducation, c'est de vivre ce que nous voulons leur enseigner, ce qui nous permettra aussi de comprendre les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. N'oublions pas non plus d'où nous venons. N'oublions pas nos propres progrès. N'oublions pas les difficultés qu'on a pu aussi avoir quand on était enfant et que nos parents essayaient de nous éduquer. N'oublions pas aussi notre marche chrétienne, d'où nous venons, ce que nous avons compris, ce que nous avons abandonné, ce que nous avons réformé en nous, ce que Dieu a transformé. Laissons à nos enfants la chance de grandir dans la sanctification. Alors bien sûr, nous, on est beaucoup plus loin. Alors on se dit, mais viens avec moi là où je suis. Mais il faut leur laisser faire le chemin. Un jour, ils seront avec vous et ils marcheront à côté de vous s'ils sont chrétiens. Il n'y a pas de problème, le Seigneur va les sanctifier et les transformer de gloire en gloire par l'Esprit Saint, comme le dit Paul. Mais parfois, nous, ça fait 20, 30, 40 ans qu'on court. Nos enfants courent depuis 2 semaines et on aimerait qu'ils soient déjà à côté de nous. On ne peut pas attendre que des jeunes convertis soient déjà au niveau de là où nous on est. On doit leur laisser du temps. Et faire confiance à Dieu. Compatir à ce qu'ils vivent et les encourager. Être des frères et des sœurs pour eux. Ainsi, Paul nous a rappelé qu'on ne devait pas irriter nos enfants. On a le droit de dire des choses, mais il faut faire attention jusqu'à où on va. Parce que peut-être on irritera, on exaspérera nos enfants. Peut-être on les blessera. Comme moi, j'ai été blessé parce que j'ai fait une blague qui était pour moi anodine. Je pense que mon père se rappelle de toute façon pas du tout de ça. Paul a aussi dirigé nos regards vers la bonne façon d'éduquer nos enfants. On est appelé à les corriger, à redresser ce qui ne va pas tout en les conseillant. Et tout ça d'une manière qui est conforme à la volonté de Dieu. L'éducation ici, elle est présentée comme quelque chose de bon pour l'enfant. Parce qu'elle a pour but de le tourner vers Dieu. Mais elle nécessite que père et mère travaillent ensemble à ça. Et je crois qu'on voit trop souvent les mères être toutes seules pour éduquer leurs enfants. Et ce n'est pas normal. Dans un foyer où il y a un père et une mère, le père doit prendre à bras le corps la question de l'éducation au sérieux. Et la mère doit se sentir soutenue par son mari. Et si nous laissons notre épouse tout faire tout seul, nous sommes en faute devant le Seigneur. nous devons prendre conscience que nous devons nous investir dans l'éducation de nos enfants. Alors, selon les familles ou autres, c'est vrai, des fois la maman est plus à la maison, donc elle a plus de temps avec les enfants, donc forcément, eh bien, elle exerce plus l'autorité dans ce sens-là. Mais parfois, peut-être, on se repose trop sur cette excuse en disant « Mais moi, je travaille tout le temps, hein ! Moi, je travaille pour nourrir la famille, moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Alors maintenant, ne me fais pas des réflexions en plus parce que je ne m'occupe pas des enfants. Je n'ai pas le temps. » C'est bidon. Ce n'est pas une excuse. Je ne dis pas que oui, vous ne travaillez pas, que vous n'êtes pas fatigué quand vous rentrez le soir ou autre. Mais si nous n'éduquons pas correctement nos enfants, si nous ne leur parlons pas du Seigneur et qu'ils viennent à se perdre, ben on aimerait bien retourner en arrière à ces jours où j'ai été fatigué pour pouvoir finalement donner à mes enfants la bonne éducation. Je ne veux pas être culpabilisant du tout. Et je parle en premier pour moi. Mais nous, messieurs, en tant que pères, nous qui sommes déjà pères, nous qui serons, enfin vous plutôt, qui serez un jour pères, prenez au sérieux ce rôle que le Seigneur vous donne. L'éducation, ce n'est pas la tâche de la mère. C'est la tâche des parents, ensemble. Tous les deux. Et les maîtres de sagesse, à l'époque, c'était des hommes, pas des femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes n'avaient pas de sagesse. Hein. Mais c'est pour montrer que l'homme, il avait une place dans l'éducation des enfants, dans la transmission de la sagesse de Dieu. Et mon désir pour notre Église, mon désir pour l'Église de Christ de manière générale, et mon désir pour, au-delà de l'Église de Christ, même pour les non-croyants, c'est que les pères prennent leur vraie place de père et de mari. J'essaye aussi bien que je le peux de m'occuper de Zoé, et des fois Chantal me dit, ben écoute, là j'aimerais bien que tu fasses plus ceci ou plus cela. C'est pas extrêmement agréable sur le moment, parce que je me dis, ben je fais des efforts, mais j'ai encore des choses à avancer. Et en même temps, eh bien, je sais aussi que c'est bien pour moi, parce que ça me permet de devenir un meilleur père. Mais ne laissons pas l'éducation de nos enfants être la tâche de notre femme exclusivement. Dans la préparation au mariage que nous faisons, lorsque nous accompagnons des couples, eh bien, nous parlons de ces questions. Et nous disons, mais qui va élever les enfants ? Et c'est beau parce que les couples disent toujours, c'est tous les deux. Et ce que j'espère, c'est vraiment que ça dure, que ce soit comme ça. Que ce soit tous les deux ensemble. Nos enfants doivent entendre un seul discours, une seule voix. Et je me rappelle le nombre de fois où ma petite sœur allait voir mon père pour un truc parce qu'elle savait que lui... Oh bon, je peux dire moi parce que je dis toujours ma petite sœur, mais c'est pas très, c'est pas lui rendre justice. Donc, il m'arrivait à moi aussi d'aller voir mon père parce que je savais que mon père allait dire oui pour telle chose. Et puis quand c'était un autre sujet, j'allais voir ma mère parce que je savais qu'elle dirait oui. Puis des fois, mon père me piégeait et puis il disait, écoute, je sais pas, je dis comme ta mère. Et puis je disais, mais maman, elle va dire non. C'est pas ça que t'es censé dire, papa. T'es censé dire oui. Mais il est arrivé des fois où ma mère disait « Mais pourquoi tu lui as dit oui ? Moi, je suis pas d'accord avec ça. » Et je pense que ça, il faut l'éviter devant ses enfants. Alors, je dis pas que ça va jamais arriver avec Zoé et nos autres enfants. Hein. Mais que nos enfants entendent une seule voix, qu'on soit d'accord sur ces questions-là, qu'on prenne des décisions ensemble, et que ce soit pas toujours la mère qui doive mettre le point final. C'est à nous, les pères, de dire « Maintenant, ça suffit. La décision, c'est celle-là. Et si t'es pas contente avec la décision, c'est pas grave. C'est cette décision. » Moi, en tant que ton père, je prends cette décision-là. Et si tu n'es pas contente, si tu n'es pas d'accord, très bien. Eh bien, tu vas t'en remettre. Tu survivras, comme nous, on a survécu. Mais c'est moi qui mets un point final à la discussion. Et messieurs, en tant que père, nous devons mettre les points finaux à cette discussion et à ces prises de décision. Après, bien sûr, si notre épouse est seule pendant quelques jours, parce que, je ne sais pas, on a eu un voyage d'affaires ou autre, les enfants doivent se soumettre à son autorité. Mais si quelque chose doit être réglé quand on rentre, c'est à nous de prendre la décision. Ce n'est pas à notre épouse de décider, parce que c'est nous qui avons été établis chefs de notre foyer. Et on doit soutenir notre épouse dans ces questions-là, mais pas la laisser seule, à devoir tout faire toute seule. Pour terminer, ben, j'aimerais vous laisser 4 défis à accomplir. J'aime bien le mot de défi, parce que ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va être forcément facile ou inné. Le premier défi, c'est que j'aimerais qu'on puisse tous ensemble demander à Dieu de nous réformer, de nous transformer, de nous examiner et de nous rendre prêts à changer. Et j'aimerais dire que je crois que notre culture, elle joue un rôle dans notre éducation. Et je crois qu'on a besoin de demander à Dieu de transcender, de dépasser, de transformer notre culture. Pas parce que la culture est mauvaise, mais parce que ce que nous devons chercher, c'est que notre éducation soit conforme à la volonté de Dieu. Et des fois, notre culture se met en travers, finalement, de l'éducation qu'on a reçue et de la culture dont on vient. Paul a dit au père d'Éphèse, votre culture hellénistique, votre culture grecque, vous la laissez maintenant de côté et vous vous attachez à la culture de l'évangile. Ah ben c'est sûr que pour les gens à l'extérieur, ça a dû changer quelque chose. Hein, parce qu'il fallait aller au-delà de la culture et des choses héritées. Et je crois qu'on peut demander au Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui dans ma culture n'est pas conforme à ce que tu veux, qu'est-ce que j'ai reçu qui n'est pas conforme à ce que tu veux, et simplement ben, fais-moi vivre comme tu veux. Et ce sera bien pour nous, et ce sera bon. Réfléchissons, notre deuxième défi, à ce que nous recherchons au travers de l'éducation de nos enfants. C'est rigolo parce que souvent, vous à l'église, quand vous voyez Zoé, vous dites « Oh, elle est tellement sage, elle est tellement souriante !» Ah, et puis 2 heures après, quand on mange à midi, elle balance son riz et sa sauce tomate par terre. Hein. Qu'est-ce que je recherche? Je ne sais pas si quelqu'un dit que c'était mignon, si j'ai bien entendu, mais non, ça n'est pas mignon. Je me rappelle très bien d'une des premières fois où Zoé a mangé autre chose que du lait. Elle mangeait de la carotte, elle a éternué, j'étais en face, et ben j'ai pas trouvé ça mignon. Hein? Mais qu'est-ce que... Bon, j'ai fait pareil avec mes parents, j'imagine. Mais qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on recherche à se dire « J'éduque mes enfants pour que quand je viens à l'église, oh, tout le monde me dise qu'ils sont tellement bien, ils sont tellement gentils, ils sont tellement beaux comme leur père. » Pas du tout. Est-ce que je recherche simplement la paix dans ma famille? Ah, moi, j'élève mes enfants de manière à ce qu'ils ne me prennent pas la tête à la maison. Ah, vraiment, là, waouh, quand ils me laissent tranquille, vraiment, je les aime. Est-ce que je cherche à avoir une famille parfaite? Ah, papa, maman, les enfants, le chien et la grande voiture, c'est très bien. Est-ce que je cherche à ce que les autres louent mes enfants? Est-ce que je cherche la louange par rapport à mon éducation, etc.? Des fois, on est comme ça. On a des objectifs tordus et bizarres dans l'éducation de nos enfants. Mais bien sûr, moi, je suis content quand vous me dites que ma fille, elle est jolie, qu'elle sourit, qu'elle est agréable à vivre. Bah oui, c'est vrai, 95% du temps. Mais est-ce que je vais baser toute l'éducation que je lui apporte sur le fait que jusqu'à ce que je sois parti de cette terre, vous disiez ces choses-là? Si je fais ça, j'ai perdu tout mon temps et j'ai pas fait ce que Dieu voulait. Ou bien est-ce que j'éduque mes enfants parce que j'ai le désir qu'ils bénéficient de ce qui est meilleur ici-bas, même quand ils sont pas chrétiens? Et est-ce que je les éduque dans le fait qu'ils rencontrent personnellement Christ comme Seigneur et comme Sauveur? Pour moi, le but de l'éducation que j'apporte à Zoé, c'est qu'elle puisse vivre dans ce monde le plus correctement possible. Mais mon désir, c'est qu'elle rencontre le Seigneur. Tous les soirs, on prie avec Chantal quand on accouche et on dit au Seigneur, ben voilà, donne-lui enfin, une bonne nuit et tout ça. Et on lui dit, et lorsqu'elle aura l'âge de comprendre l'Évangile, attire-la à Christ pour qu'elle se convertisse et qu'elle devienne ton enfant. Ça, c'est notre désir profond. Et notre éducation, elle tend à permettre à Zoé de rencontrer le Seigneur. Alors bien sûr, dans notre éducation, il y a aussi des choses qui sont toutes pratiques, hein, se comporter en société, en famille, etc. Hein. Mais le but, c'est que par notre éducation, elle puisse rencontrer le Seigneur. Et même si elle réussit partout, d'autres, j'aurai quand même le sentiment que j'ai peut-être raté quelque chose. Mais tout en sachant que sa conversion dépend de Dieu et pas de moi. Moi, je dois faire tout ce que je peux faire en tant qu'être humain avec Chantal pour elle. Et ensuite, le reste, je l'abandonne entre les mains du Seigneur. Troisième défi, et celui-là, il va peut-être pas être facile. Les deux autres sont encore relativement simples. Examinons-nous avec l'aide du Seigneur et demandons pardon à nos enfants si nous avons mal agi envers eux, même si on avait des bonnes motivations. C'est pas évident, j'en ai très bien conscience. J'ai déjà des fois demandé pardon à Zoé. Je sais qu'elle ne comprend pas tout, mais c'était important pour moi. Parce que je m'étais énervé pour rien, parce que j'avais élevé la voix, parce que j'étais mécontent pour d'autres choses et que c'est elle qui, ma foi, a essuyé les plâtres. Mais demandons pardon à nos enfants. Vous savez, parfois, on a cette image ridicule de se dire « Moi, je suis le parent. Si je demande pardon à mon enfant, je perds toute mon autorité. » Si on a l'humilité de savoir demander pardon à nos enfants, ça les touchera, ça les travaillera. Et ils se rendront compte qu'on est capable de porter un regard juste sur notre manière d'être et sur qui on est. Faire croire à nos enfants qu'on pense qu'on a toujours tout bien fait, c'est pas bon. si à un moment on se rend compte que de toute façon on a mal fait, il faut demander pardon, puisque de toute façon devant Dieu on s'est rendu compte que c'était pas bien. Alors pourquoi retenir une quelconque demande de pardon ? Et encore une fois, je modère ces choses-là en disant que ben, c'est pas parce que j'ai dit un truc à mon enfant et qu'il s'est mis à pleurer que forcément ben, j'ai été un mauvais père. Des fois je dispute Zoé, elle pleure, ben, elle pleure parce que voilà, hein, elle est vexée, elle est fâchée, elle n'est pas contente. Ben voilà, c'est pas grave. Mais si nous nous rendons compte que nous avons mal agi à un moment, demandons pardon à nos enfants. Qu'on soit père ou qu'on soit mère. Et pour finir, celle-là, elle est pour vous, messieurs. Ce défi-là, c'est que nous, en tant que père, eh bien, on puisse demander pardon à notre épouse si on se rend compte qu'il y a des fois où nous avons délaissé notre tâche d'éducation et nous l'avons laissée simplement que à notre épouse. Oui, ça demande de l'introspection et ça demande de l'humilité, ce n'est pas facile, ce n'est sans doute pas marrant au moment où on le fait, mais c'est bénéfique. Parce que ce sera bénéfique pour le couple, ce sera bénéfique pour la famille, ce sera bénéfique pour nous et ce sera bénéfique pour notre épouse. Et mesdames, si votre mari vient vous voir, s'il vous plaît, ne lui dites pas « c'est pas grave ». Asseyez-vous, prenez le temps de discuter, de comprendre et surtout, si vous lui pardonnez, dites-le lui clairement. Des fois, Chantal me dit « Ah, pardon pour telle chose », et puis je lui dis « Oh, mais c'est pas grave, je t'en veux pas ». Je suis là genre « Mais c'est débile, c'est pas ça la réponse. C'est pas ça qu'il faut dire. » Je dois lui dire que oui, je lui pardonne. Alors si votre mari vient à vous, et en plus sachant que souvent pour nous les hommes, on est assez orgueilleux, et c'est des fois difficile pour nous de faire ces démarches, eh bien, recevez, acceptez cette démarche de votre mari. Et utilisez-la, finalement, pour parler et prier avec lui. Je vais prier pour clore, j'entends les cloches. L'heure a avancé, mais je crois que nous avions besoin que Dieu nous rappelle ces choses. Et Père éternel, nous voulons te remercier parce que toi, tu es le Père parfait. Toi, tu es celui qui sait parfaitement comment nous reprendre, nous corriger, nous diriger. Ta parole nous dit que tu reprends celui que tu aimes. Et je te remercie, Seigneur, parce que par cette prédication aussi, tu nous reprends. Tu nous enseignes, Père ou Mère. Tu nous exhortes, tu nous encourages. Je te prie, Père éternel, pour que nous puissions remplir, accomplir ces défis, Seigneur. Non pas pour dire, ben voilà, Blaise, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce que tu as dit. Mais pour se dire, si je fais ces choses-là, si j'arrive à avoir cette attitude de cœur, je vais progresser, je vais avancer. Je te prie vraiment, Père éternel, que tu imprimes ces choses, ces vérités en nous, pour que nous puissions vivre tout le reste de notre vie avec ces convictions transformées par toi. Nous voulons tout laisser entre tes mains. Nous avons confiance en toi pour la conversion de nos enfants et pour leur éducation. Mais en même temps, nous voulons fournir tous les efforts, tout ce que tu nous demandes de faire, nous voulons le faire, Père éternel. Veuille vraiment nous soutenir, nous secourir, être avec nous, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains. Amen. Merci.